Debra Sampson, EFT et l'héritage émotionnel.
Alors, je suis ravie d'être là parmi vous, ravie de pouvoir partager ma passion avec vous et surtout d'être accueillie et avoir cette chance de parler. Voilà. Alors, pourquoi moi? Pourquoi je suis là? Je pense que nous tous, qu'on est là, comme toutes et tous qui sont praticiennes, on a quelque chose de particulier à donner dans le monde de l'EFT. On n'est pas là par hasard, n'est-ce pas? Nos passés... Oui, attendez juste un moment. Excusez-moi, je prends juste 2 minutes parce que j'ai parlé avec Fiona si elle voulait que je traduise. Sorry? You are, ok. C'est parce que mon français est beaucoup plus anglais. Donc, je vais parler comme ça. Tu comprendras tous. D'accord? C'est bien. Peut-être c'est elle qui va traduire après, d'accord? Donc, je dis qu'on est tous là parce qu'on a vraiment quelque chose à partager dans le monde EFT. C'est qui on est, qui je suis, qui est important, je pense, dans ce que je peux offrir dans le monde EFT, comme nous tous. Alors, moi, je dis... On a déjà vu plein d'exemples hein, avec le fabuleux travail d'Andrea avec ce spectre autiste. On a vu avec Françoise, Bianca nous avait partagé son travail avec des animaux comme Dominique hier et Fiona avec le picture tamping, Christine et tout le monde. Hein. On a tous quelque chose à partager et c'est selon notre parcours. Et il y en a certaines parmi nous qui vont vous parler. Et peut-être d'autres vont vous parler un peu moins. Ce n'est pas parce que c'est mieux, c'est pire, c'est juste que c'est comme ça. Et ce que je trouve toujours intéressant dans ces conférences, c'est le suivi. J'entends Odile qui commence hier matin avec son discours dans le transgénérationnel. Je continue là-dedans. Dominique avec le sensoriel. On est dans le ressenti. Donc, tout a un sens. Et quelque part, c'est des ponts qui nous amènent. Hein. C'est « building bridges », comme il dit Gary Craig. Hein. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est la richesse en EFT. On a tous quelque chose à offrir et à écouter les autres parce que toujours, il y a quelque chose qui nous apporte. Même si ça me touche et je dis « j'aime pas ça, je ferai jamais ça, moi ». Mais écoutez le voix qui le disent parce que peut-être ça vient chercher quelque chose chez vous. Alors, qui je suis? Alors, j'ai commencé ma vie. Je vais vous donner une petite histoire. J'étais actrice avant, donc peut-être c'est un peu ça aussi qui veut que je raconte un peu des histoires. Dans ma vie, quand j'étais petite, j'ai dit à ma mère, moi j'aimerais bien être médecin tropical. Elle me regarde et dit, c'est mignonne, ma petite, mais tu sais, tu es comme moi, tu n'es pas très intelligente. La médecine n'est pas pour toi. Donc, comme j'étais très sage, j'ai pris ça en compte. Et ma sœur, que j'écoutais encore plus que ma mère, disait, c'est une comédienne, elle. Donc, je suis devenue comédienne. Et autant que comédienne, quand j'ai travaillé, j'étais couverte de tête à pied avec le psoriasis, avec qui j'étais atteinte à l'âge de 11 ans. D'accord ? Et j'avais un psoriasis où on ne pouvait pas mettre une aiguille entre. Et les journées le pire, je puais de la levure, yeast. Hein? Donc c'était désagréable pour moi et très embêtant par rapport à l'autre. Donc je me suis isolée. J'ai vu des médecins, j'ai vu plein de différentes personnes et j'ai toujours eu du psoriasis. Donc, plus tard dans ma vie donc, comme actrice, c'était quand même embêtant. Hein. Besoin de me. J'ai pas peut-être beaucoup de scènes de nu, mais même. Hein, juste de pouvoir couvrir le cou et tout le reste, je voulais être couverte partout. Et fur et à mesure, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est avec l'acupuncture que je me suis soignée. Et c'est comme un jour, le psoriasis, ça descend dans mes pieds. Je fais ça, au revoir psoriasis. Chouette. Et je pensais d'avoir vu la cause de ça. Mais à l'époque, attention, je n'avais pas l'EFT. Donc, c'était bien et j'étais vraiment, vraiment mieux. Mais d'autres symptômes que peut-être étaient moins vus étaient là aussi avec l'angoisse, la dépression, la peur, etc., etc., etc. Et c'est mon acupuncteur un jour, parce que quand j'étais comme actrice, je travaillais toujours, même quand je n'avais pas de travail. Donc, je travaillais dans les bars, je travaillais, je servais dans les restaurants, je faisais un peu tout. Et mon acupuncteur, il me dit, pourquoi tu ne fais pas quelque chose pareil comme l'acupuncture? Bon, je dis, je ne sais pas si c'est l'acupuncture que je voulais faire. Mon mari, parce que pendant toute cette période, je rencontre mon amour de ma vie, et lui, il me dit, massage. Je pense qu'il était un tout petit peu intéressé. Juste un peu. Donc, quand je suis quelqu'un qui écoute les autres, peut-être un peu moins maintenant, je suis devenue aromathérapeute. Et c'est devenu ma grande passion. Et l'aromathérapie était là pour aider un peu entre le sommeil, tout le reste. Mais c'est devenu vraiment une passion. Et dans l'aromathérapie que j'ai appris en Angleterre, où c'est quelque chose un peu plus reconnu qu'ici, surtout à l'époque où je suis arrivée en France, j'ai travaillé vraiment dans la globalité. J'étais intéressée par la santé et le bien-être de la personne et en totalité, en globalité, donc dans l'énergétique et dans les vibrations des huiles essentielles. Et on m'avait invitée à l'époque de travailler dans les hôpitaux, malgré que je ne suis pas assez intelligente. J'ai travaillé avec des patients de cancer et de sida dans un grand hôpital à Sheffield parce qu'ils ont vu que quand même, l'aromathérapie, la réflexologie et ce genre de choses aidaient, géraient les problèmes de stress et le bien-être, etc. Donc, c'était merci, c'était vraiment un bon cadeau. Et mon mari avait cette petite idée, il met des graines, lui. Hein. Il est quelqu'un qui sème, il met des petites graines. Et il voit si je viens chercher la graine ou pas. Et si je viens prendre... Il a très peur, en fait, parce qu'il sait que si je la prends, c'est pour de vrai. Et un jour, il me dit, et si on allait en France et on s'achetait une maison en France? Je dis, je le regarde. Un homme avec beaucoup de caution, qui est beaucoup plus droite que moi, il va réfléchir. Je dis, pourquoi pas? Et moi, je n'avais pas de sous à l'époque. Hein. On était jeunes, couple, ensemble. Et on est venu en France et avec ma coccinelle et une tante dans la voiture, lui ne conduisait pas, donc moi j'étais chauffeur dans coccinelle, décapotable, donc c'était fun. Hein. Et on est arrivé en France, où on a acheté une ancienne ferme, dans les 15 jours de vacances. Bon, à l'époque, je parle d'il y a en 86, hein, donc c'était plus abordable à cette époque-là. Et fur et à mesure de venir en France, vous allez voir, il y a un sens de ça quand même. En arrivant en France, chaque fois qu'on venait en vacances, je dis, il faut que je m'installe ici. Il faut qu'on vit ici. Je le savais, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que je n'aimais pas quitter la Corrèze. Dès que j'arrivais en Corrèze, c'était... Oh, j'étais tellement heureuse d'être en Corrèze. Et à l'époque qu'on avait acheté la maison, c'était une ancienne ferme, et avec tout à faire. Et mon mari et moi, on n'était pas du tout des bricoleurs. Moi, je dis, en anglais, je ne sais pas si vous connaissez, il y a DIY, do it yourself. Oui? Nous, on était les BIY, botch it yourself. Hein? Donc, voilà. Bon, pour vous donner une petite idée, botch it, c'est mal, hein? C'est un peu à travers. Hein? Donc, fur et à mesure, mon mari qui décide le pour, le contre de vivre en France, et moi qui est prête déjà, j'ai déjà chargé la voiture, le bébé, etc. Et on est venu en France quand notre fille avait 10 mois. Et on est venu s'installer. Quand on a acheté la maison, on était les plus jeunes dans le village par 40 ans. Donc il n'y avait que des personnes âgées et beaucoup de maisons fermées à l'époque. Et les gens du village nous avaient vraiment accueillis aux bras ouverts. C'était très sympathique. Et comme nous étions naïfs, on est content aussi de ça. Et le jour qu'on arrive à s'installer pour vivre définitivement, il y a des différentes familles qui sont venues aussi s'installer à ce moment-là, qui étaient plus jeunes ou même âge que nous avec des enfants. Donc j'ai dit chouette. Et c'est là où les vrais problèmes ont commencé. Et j'ai rien compris. Mais vraiment, quand on était en vacances, ça a été. Mais vivre là. Et j'ai commencé aussi de m'installer. Il faut dire que mon mari, il est écrivain et formateur. Donc, il travaille sur l'ordinateur. À l'époque, c'était un peu le grenier froid dans cette maison. Bon, ça a changé, je vais vous rassurer. Donc, apparemment, il ne travaillait pas. Apparemment, moi, je ne travaillais pas. En plus, on pouvait être vu parfois à midi, entre midi et deux, se promener main à main. Imaginez, heureux, amoureux. C'était, je pense, très mal vu. Donc, ça créait certainement certaines jalousies. Je n'ai pas compris à l'époque. Hein. Et j'ai commencé de m'installer en tant qu'aromathérapeute. Je ne vous dis pas la comédie que c'était d'être installée en tant que thérapeute à Brive, où j'ai fait tout le tour administratif. J'ai essayé vraiment d'être légale. Et je vais vous dire pour une petite blague d'essayer ça. Finalement, j'étais installée. J'ai dit, écoutez, j'ai du travail. J'étais dénoncée 3 fois par l'ordre de médecine, mais par des rideaux qui bougent. Madame, vous avez eu 6 personnes aujourd'hui qui sont venues vous voir. Ah bon? Mais celle avec la voiture rouge, c'était bien un client. Et c'était vraiment comme ça. Mais je ne voulais pas me cacher, j'étais pas là pour me cacher. Pour moi, j'étais pas dans l'opposition à la médecine, pas du tout. C'est la médecine complémentaire. Donc j'ai contacté tous les kinés dans le coin pour leur demander de venir pour des conférences. Personne n'est venu, personne ne m'a même répondu. Et ça, c'était un peu un choc parce qu'en Grande-Bretagne d'où je venais, on travaillait ensemble. Je disais parfois, je ne pense pas que je peux faire quelque chose pour cette personne, mais un tel que peut-être donc en envoyer. Et c'était un peu une solidarité. Et d'un seul coup, je perds tout ça. Donc, ça me renvoie un peu à la honte. Certainement à ma mère, elle n'est pas assez intelligente pour travailler en France. Et toutes ces choses-là. Et en cherchant toute cette légalité, finalement, URSSAF m'appelle, et je vais juste vous dire donc quelques mots, qui m'a dit, vous savez, même les prostituées, ils sont illégales, mais on a une façon de leur faire payer leurs cotisations et les impôts. Alors, et je vais juste vous dire que vous savez, en France, toutes les femmes commencent à numéro 2 dans le social, ouais. Les hommes avec un 1, et moi, 4. Bon, si quelqu'un a la réponse plus tard, je vous en parle, mais même mon comptable, tout le monde cherche, parce que toutes les étrangères que je connais, les femmes sont 2, les hommes sont 1, et le 4, on a cherché, et personne jusqu'à présent, mais si quelqu'un a la réponse après, je prends. Voilà. Donc, il y avait des dénonciations. Et ça m'a vraiment ouvert des yeux à la vie en France. Mais ce que j'ai senti avec ça aussi, parce que j'ai commencé vraiment de travailler avec l'aromathérapie et j'ai commencé d'avoir une clientèle adorable et vraiment des gens sincères, beaucoup de personnes âgées que je soignais, qui avaient des douleurs ou dormaient mal ou l'arthrose, Et à l'époque, j'étais aussi invitée de travailler à l'hôpital de Tulle pour enseigner les infirmières, malgré que j'étais illégale. Donc, il n'y avait pas de cohésion, quelque part. Mais bon, j'étais très contente. Et très contente de travailler en France. Vraiment, c'était fantastique. Et toutes les personnes qui viennent, c'était comme un cadeau. Mais en travaillant ces longues années, je me suis rendue compte que parfois, l'état de la personne améliorait. Ça, c'est avec l'aromathérapie. Mais il restait un truc. Et moi, je suis quelqu'un de kinesthétique. Hein. Vous avez bien compris, je ne suis pas l'intello. Hein. Mais je suis très sensible. Même quand je touche le corps, parfois, je dis, c'est un peu comme un clé USB. C'est comme le message arrive et parfois, il y a un. Hein. Et souvent, c'était grand-mère, arrière-grand-mère, père. Il y avait comme des mots qui venaient dans ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, bon, il y avait des collègues à qui je, vous voyez, j'ai un cabinet à Brive maintenant et, où je me suis installée et j'ai pris avec moi d'autres thérapeutes pour travailler avec moi. Donc, j'envoyais. Et à l'époque, je pensais peut-être je fais faire l'hypnose. Et au moment que je pensais d'aller faire l'hypnose, le EFT vient toquer sur la porte. Parce que c'est le EFT qui vient me chercher, non ? En principe. Et comment le EFT est venu ? C'est parce que ma meilleure copine d'enfance, quand j'avais 9 ans, on s'est perdu de vue pendant 40 ans. Et je cherchais ma copine pendant qu'elle me cherchait aussi. Et Catherine, qui est aussi praticienne EFT aujourd'hui, était dans la kinésiologie. Et elle m'a dit, mais tu sais, moi, elle est allemande, moi anglaise. On habite en Allemagne ensemble. Elle était mariée avec un Français, elle vivait en France. Hein. Donc toutes les... Et elle m'a dit, je vais à Bruxelles et je vais faire l'EFT. Je dis, écoute, pourquoi pas ? J'étais un peu sceptique, mais bon, je dis, on était à l'école ensemble, on va retourner à l'école ensemble. Et j'ai rencontré Dominique, avec qui j'ai fait toute mon première formation d'EFT, 1, 2, 3, et c'était fantastique. Je veux dire, c'est peut-être un peu bizarre pour une Anglaise de faire l'EFT en français, mais c'était nécessaire pour moi de pouvoir comprendre le vocabulaire EFT français. Et puis après, j'ai fait 3, 2, 1 avec Gwyneth Moss en Angleterre. Donc j'ai fait le boucle. Hein. Voilà. Et j'étais donc ravie de pouvoir vraiment travailler l'EFT. Alors, comment j'arrive à faire des constellations familiales ? Je dis, le EFT basique est fantastique. Le EFT de base, on n'a pas besoin vraiment d'autre chose. Ça marche, n'est-ce pas ? Dominique m'a bien appris. Elle est, tu peux dire, terre à terre hein, avec ça. Elle est vraiment... Ça m'a... Ok. Moi qui ai un peu R, c'était très important de me garder là. Et j'ai une super formation avec elle. Donc technique de film. Bien. Je l'ai bien appris avec elle. Et au moment qu'on a cette bonne base, je dis, mais c'est pas de faire quelque chose parce que c'est fantastique, la fantaisie de « Oh, mais moi j'ai envie de faire... » Ce n'est pas ça pour moi, la constellation, le travail que je fais. C'est parce que ça donne un plus quand il y a des portes qui ne s'ouvrent pas ou quand on sent qu'il y a quelque chose qui peut-être peut être un outil, qui peut être un peu comme le picture tapping hein, que Fiona dit aussi. Ça donne une opportunité à aller en douceur, même sans que la personne se rend compte qu'on y va quelque part. Donc Gwyneth, avec qui... J'ai fait une retraite déjà avec Dominique à Bruxelles. On était 8 à Bruxelles dans un monastère en ciment des années 60, n'est-ce pas ? Et c'était un week-end fantastique. Et elle avait invité Gwyneth Moss. Mais il fallait qu'on soit les anglophones pour parler l'anglais parce que Gwyneth ne voulait pas être traduite. Que je comprends, pour un week-end, c'était compliqué. Et c'était génial. Mais Gwyneth... À un moment donné, j'ai bien sympathisé, et à un moment donné, elle sort un peluche. Et je dis, ah non, c'est pas ça. Je croyais que c'était quelqu'un de sérieuse. Peluche. J'ai joué avec des peluches, peut-être petites, mais je suis une femme et je ne suis pas une femme à câliner des peluches aujourd'hui. Et deux. Et on a fait le week-end, et j'ai bien compris à quel point ces peluches étaient super. Donc, je dis, c'est grâce à Linda Wood avec Tapie Bear, c'est grâce à Gwyneth que le travail que je fais aujourd'hui vient là. Alors, pourquoi ? Depuis des années en aromathérapie, je vous avais dit que je travaille avec des grandes familles corréziennes et grandes familles françaises, catholiques souvent, avec 12, 14 enfants, n'est-ce pas ? Et depuis longtemps, il y avait certainement une famille qui venait me voir depuis très longtemps. Et j'ai eu en fait la mamie et 12 enfants. Je fais des bons de cadeaux pour des massages. Donc à l'époque, tous les enfants achetaient un bon pour leur maman parce qu'elle trouvait qu'elle était moins chiante si on l'a offert un massage par mois. She was a less of a pain if she had a massage every month. So it was a small price, un petit prix à payer. Donc, ils venaient, elle venait. Et fur et à mesure, dans cette famille, il y en a d'autres qui sont venus. Mais c'est, donc, j'ai la mamie, et après, donc, ses enfants m'envoient leurs enfants. Eux, non, non, non. Intéressant, hein? Donc, les grands-parents et les enfants, mais pas dans le milieu. Et j'avais, alors, dans cette grande famille, un petit garçon avec un comportement, mais c'était très difficile de travailler avec lui. Et je pense à le travail que Andrea nous avait partagé avec nous, avec cet enfant, avec son comportement où il allait se cacher. Et moi, je fais un peu la même chose avec la empty chair, hein, où il allait mettre tout par terre. Et moi, je roulais un peu avec lui. Et c'était, hein. Et avec l'EFT, ça nous avait vraiment permis, mais avec des peluches. Donc, avant que j'avais ce travail, je demandais aux enfants d'amener leur doudou, leur peluche. Je suis désolée, j'ai que 4 aujourd'hui, parce que j'en ai 36 au cabinet. Et parfois, j'ai toutes les peluches qui sont là. Hein. Alors, je travaille en constellation familiale, en individuel. Et je vais juste vous dire, j'ai dit constellation familiale. C'est Gwyneth qui m'a dit un peu c'est ce que je fais, mais bon, en passant. Parce que j'ai participé à une constellation familiale. Et peut-être, est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont praticiennes ou qui font le constellation familiale? Oui, donc vous connaissez tous. Quand j'ai assisté à cette première stage, je ne connaissais pas, mais j'étais toujours intéressée, depuis toujours intéressée par le transgénérationnel, selon ma problématique de famille, notamment ma relation avec ma sœur, qui date des générations apparemment. Donc, ça m'a personnellement aussi intriguée. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, quand quelqu'un vient nous voir par la porte, c'est toujours qu'il vient chercher quelque chose qui touche en nous, n'est-ce pas? C'est souvent quelque chose aussi qu'on a personnellement. Hein? Donc, c'est intéressant. On a quelque chose à faire avec ça. Donc, les constellations, ces journées de constellations, je suis allée avec une collègue, psychothérapeute, gestaltiste. Et Véro m'a dit, tu viens, c'est ma collègue qui le fait, etc. Donc, on est une groupe de 18. Vous connaissez les constellations certainement mieux que moi. Et quand j'arrive, on était là, et ma collègue avait amené une de ses patientes qui était, je vais dire, dans l'étiquette borderline. Et dans ce journée, on avait su que tout le monde ne va pas passer. Moi, je dis, je suis juste là comme observatrice, donc je vais observer. Et la première personne, c'était cette femme-là, cette patiente. Et elle va, et fur et à mesure qu'elle choisit les personnes pour toute la famille, elle me choisit moi pour elle. Bon, je ne connaissais pas du tout. Donc j'arrive, et je suis à ma place, et d'un seul coup, j'ai un manque de respect total. Et j'étais vraiment assez sidérée. Je dis, mais j'étais un peu sceptique peut-être, mais pas à ce point-là. Je ne croyais pas d'être sceptique à ce point-là. Mais pris de pied à la tête avec une... Je voulais vraiment me moquer d'eux. Pourtant, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui est moi vraiment. Je dis ça, pas consciemment en tout cas. Donc, ça m'a plu. Hein. Mais... À la fin de la séance, de cette séance, ma collègue m'a dit, mon Dieu, je t'ai entendu rire comme elle, tu avais le comportement comme elle, etc., etc. Donc, vous connaissez le truc. Donc, j'ai compris, si je ressens quelque chose, je peux peut-être faire confiance à ce que je ressens. Et pendant cette journée, chaque personne me choisit moi pour eux. Mais cette jeune femme au début, après sa séance, elle était mal, mais mal, mal, mal. Et rien n'était fait pour elle. Et personnellement, comme thérapeute, je trouvais ça grave. Parce qu'elle allait partir. OK, il y avait Véro avec le gestalt, mais énergétiquement, il y avait quelque chose qui bougeait. Et on n'avait rien fait avec ça. Alors, pourquoi les constellations avec l'EFT? C'est génial. Parce que quand on trouve, on tapote et on peut faire quelque chose avec tout de suite. Donc, dans cette grande famille, je vous décris, j'ai maintenant travaillé avec les cousines et cousins de cette dernière génération. Maintenant, j'ai aussi la plus grande sœur et la plus jeune sœur. Et dans le milieu, il y a un sandwich de garçons et filles. Et l'aîné a eu une histoire. Donc, avec des peluches, ça la perd vraiment. Donc, on peut mettre les 12 enfants, les parents, on peut mettre tous les petits-enfants, tout le monde. Et quand on... Oups, je vais m'attacher. Et quand on regarde tout ça, ça donne de l'information. On regarde et c'est vraiment pour info. On voit tous les peluches et on tapote. Donc, par exemple, hein, imaginez que on commence juste à regarder. Ça, c'est ma famille. Ça, c'est ma famille. Et quand je regarde ma famille, je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand je regarde ma fille, ma famille? Je me sens un peu détachée. Je me sens un peu détachée. Par exemple, parfois c'est je suis heureuse. Parfois c'est les larmes sont là tout de suite parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus là. Donc ça donne déjà de l'information et on peut aller directement, hein, dire en direct et c'est très rapide. Donc c'est aussi quelque chose dans une séance où on peut aller rapidement vers le cœur du problème et trouver. Surtout en transgénérationnel, hein, parce que c'est fabuleux. On trouve quelque chose, pas toujours tout de suite comme ça, parce qu'on ne va pas trouver, je ne vais pas amener les arrière-grands-parents, c'est sûr. Mais au fur et à mesure, il y a des choses. Et avec cette femme, l'aînée, en fait, c'est maintenant intéressant parce que c'est les petits-enfants. Et l'aînée que je vois, elle a 12 ans, mais la plupart que je vois entre 6 et 9. Et c'est eux qui demandent à leurs parents de venir me voir. Donc, c'est les enfants qui font appel. Au lieu que ce soit maman qui prend et c'est elle le problème entre les deux, c'est l'enfant qui dit, si je viens, ma mère ou mon père va être obligé, eux aussi, de faire quelque chose. Inconscient. C'est comme si le message inconscient. Et c'est fabuleux de voir ça. Et j'ai le petit garçon qui est un peu partout, qui dit, maman, j'ai besoin d'une séance avec Déborah. Ça serait vous aussi, hein. C'est pas que c'est moi, mais parce qu'il a capté que c'est quelque chose qu'il reçoit, il est à l'écoute, et sa mère, et ce qu'elle peut entendre, selon, parce que j'écoute des deux côtés, et je travaille avec eux seuls après. Et la femme dans ce que je parlais, l'aînée, parce que le garçon est de la plus jeune sœur, mais l'aînée, elle a une fille. Et cette fille, elle a 9 ans, elle est envahie par la tristesse et elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais la séparation avec sa mère, très, très difficile. Et sa mère, elle est infirmière. Donc, vous imaginez, vous savez, infirmière, le matin, elle part très tôt, le soir. Mais elle me dit, non, le matin, ça va. Hein. Elle peut partir au travail, ce n'est pas ça le problème, dit la petite. C'est plus, en fait, le problème, c'est j'ai peur que maman soit triste. C'est plus la fille qui. Et elle a bien capté les choses. Donc, j'ai toutes les deux avec moi parce que la petite voulait que sa mère reste pour cette séance. Donc, je travaille avec la mère et la fille. Si je garde toutes les deux, tout le monde tapote. Hein. La maman doit aussi tapoter que la fille. Je ne vais pas d'observateur. Hein. Si on est là, c'est pour participer, n'est-ce pas? Donc, on prend maman, on prend la fille, et puis on a besoin de la maman, de la grand-mère, parce que c'est là où ça se passe aussi. La petite, elle a peur d'aller chez la grand-mère. C'est pas qu'elle a peur de sa grand-mère, mais la séparation, c'est souvent quand sa mère travaille, elle va là. Et la mère dit, oui, mais moi, j'ai besoin de ma mamie. Oui. Donc, on travaille avec les quatre femmes. Ça, c'est toutes les aînées. C'est toutes les aînées, en fait. Ah, c'est toutes les aînées. On est les femmes qui... Donc, on travaille avec ça. Toutes les aînées. Toutes les aînées. Et on est triste. C'est ça qui vient. Donc, on travaille ce qui vient. Fur et à mesure. Et je n'ai pas ajouté qu'il y avait des choses difficiles avec ce garçon, même dans l'ordre de sexuel. Même tout petit. Et quand on travaille avec ça, d'un seul coup ce qui vient. C'est une histoire de la arrière-grand-mère. En fait, sa mère à elle, sa mère, oui, a été mariée. Son mari est décédé et elle a pris un amant avec qui elle a eu des enfants. Oui. Et elle, pardon, ça, elle, oui, elle, mari, elle a un amant. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pique l'amant de sa mère, elle le marie, lui qui a déjà plein d'enfants. Ils ont des enfants ensemble qui deviennent presque ses enfants et ses demi-sœurs et frères à la fois. Donc il y a une chose d'inceste qui est déjà là auparavant, qui est rapportée dans les générations après. Et je peux vous dire que depuis qu'on a fait tout ce nettoyage-là, le petit garçon va beaucoup mieux. Il n'était même pas là. Et c'est ça qui est fabuleux, de pouvoir travailler dans le transgénérationnel. Et elle était contente de partager ça avec vous. Elle voulait même qu'on le fasse. Mais je voulais aussi, j'ai encore du temps, oui, ça va, aussi vous parler d'un autre cas, qui est une femme qui est venue me voir. Son psychiatre, en fait, l'avait permis de venir me voir parce qu'elle ne voulait plus prendre des médicaments. Et il avait entendu parler de EFT, même s'il ne le pratiquait pas. Et elle est venue me voir avec un tas de diagnostics. Elle a été nommée comme schizophrène, bipolaire, borderline, mais elle ne voulait pas prendre des médicaments. Et quand on a entendu parler l'autre jour, elle a très bien géré son travail. Elle était dans sa vie professionnelle très, très efficace, extraordinaire. Même très, très jeune, elle a mené une boulangerie, sa propre boulangerie, je pense à l'âge de 12 ans, elle est pâtissière, hein, à l'âge de 22 ans, 21 ans, tout ça, extraordinaire. Mais dans sa vie personnelle, difficile. Et la chose qui l'a fait venir me voir, c'était à l'époque, elle était très angoissée. On travaille l'angoisse. Donc je commence avec le EFT de base et on travaille sur la trauma. En fait, pardon, sur l'angoisse. Et où ça nous amène, c'est dans un tas de traumas, mais de complexité, où moi, je regarde ça, je dis, waouh, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors, et c'est pour ça que je fais cette petite dessin pour vous, hein, parce que j'ai pas de PowerPoint, moi. En fait, c'est un enfant de 6, elle vient d'une famille de 6 enfants. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Et oui, c'est ça. Attendez, elle. Et elle est morte à l'âge de 2 ans, avant sa naissance, oui, d'une asphyxiation, on avait dit. On avait dit qu'elle s'est étranglée sur les pattes à l'école quand elle mangeait les pattes. Ça, c'était selon elle. Ce qu'elle a reçu comme information. Donc, ça, c'était la première chose. Mais le pire pour elle, c'était après. Donc, elle est là. Ouais. Donc, ça, c'est la nôtre. Elle a un grand frère. Donc, j'ai mis en vert tout ce qui est garçon ou homme. Et une grande sœur qui sont encore en vie. Elle a aujourd'hui 27 ans. Là, une petite sœur et une autre petite sœur. Elle aussi, morte. Elle, morte devant elle. Celui-là, la plus petite, était sa petite sœur préférée. Elles étaient toujours ensemble et elles sont allées à la piscine et elle était nommée comme la responsable des petits. C'était son rôle dans la famille. Et ce jour-là, ils sont dans la piscine et elle entend un bruit, je ne vais pas aller dans tous les détails par rapport au temps. Sa sœur se noie dans le grand bassin pendant qu'elle est dans le petit bassin en train de jouer parce que la mère, elle est là et ce jour-là, elle croit que sa mère s'occupe des plus grands. Voilà. Donc, elle est morte. Elle sort de la piscine, elle voit sa sœur. On est en train de la réanimer, les pompiers sont là, etc. etc. Ouais. Un an plus tard, celle-là, avec qui c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de jalousie entre elles, là, elle sort de la douche un soir et elle meurt sur son lit d'asphyxiation. Donc, imaginez. Donc, on a fait l'EFT, beaucoup d'EFT pour nettoyer, je dis, le sol. Ouais. Donc, le EFT base. Hein. On fait beaucoup de traumas, on fait toutes les techniques de fil, même en distance, on met tout un peu, et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et au moment qu'on peut, on trouve la famille. Je vais, parfois, quand on travaille avec ça, elle a pu aussi reparler à sa sœur, la plus petite. Hein. Comme ça, elle a pu vraiment la parler. Parce qu'elle, depuis des années, ça faisait depuis 14 ans qu'elle n'est pas retournée à la piscine de Brive. Mais la piscine de Brive, c'est sur une route. Elle peut même pas, elle pouvait pas aller sur cette route. Donc, ça l'a quand même handicapée pas mal aussi géographiquement. Maintenant, elle peut. Et avec ça, elle peut parler aussi avec sa sœur. C'est une super façon de pouvoir parler même avec les morts, hein, de pouvoir dire ce que je n'ai pas pu dire, etc. Vous connaissez déjà un peu. Donc, avec ça, on regarde. Alors, là, vous avez son père. Là, vous avez sa mère. Ouais. Donc, ça, c'est pour le mariage. D'accord? Ici, vous avez grands-parents paternels. Ouais. Grand-père paternel, grand-mère paternelle. Grand-père maternel, grand-père paternel, grand-mère paternelle. Et là, ses frères et sœurs, son cousin et son cousin germain. Oui. Donc, c'est des cousins germains. Les parents sont des cousins germains. Mais lui, il a perdu sa mère quand il était petit. Donc, il va vivre chez eux. Oui. Donc, il est dans cette famille où il vit. Et là, c'est aussi sa tante à elle. Comme c'est son oncle. Vous voyez? Donc, vous voyez, tout est. Et quand elle regardait ça, on a mis ça en peluche. Donc, on met toutes les peluches. Et quand elle regarde ça et elle tapote ça, elle se voit là, dans le centre, comme si tout vient vers moi. Je suis le centre. Et tout vient, c'est ma responsabilité. Donc, il y a tout ça. Et de quoi elle est morte? Tuberculose. Oui. Donc, en travaillant avec elle, on a nettoyé pas mal de champs. Elle a regardé des choses. Elle peut regarder ça. Et après, elle a dit, mais en fait, il y avait ma sœur là. Je ne suis pas vraiment au centre. Et puis, je ne vous avais pas dit, mais il y avait une autre avant que maman avait un avortement parce qu'elle était toute jeune quand elle était enceinte. Donc, il y avait déjà un autre. Donc, je ne suis vraiment pas au centre. Il y avait une complication de plus. Pourquoi faciliter la vie quand ça peut être un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Elle, il y a la violence familiale aussi, beaucoup de violence. Hein. Et elle, pendant qu'elle est enceinte de ma cliente, elle devient témoin de Jéhovah. Elle capte toute cette religion. Et ça, c'était un challenge pour moi. On peut le dire comme ça. Vraiment de rester complètement retrait et de respecter tout ça et rester avec ça. Et à un moment donné, en fait, elle me parle de Jéhovah parce qu'elle a été excommuniquée par les Jéhovah. Hein? Quand elle avait 16 ans, parce qu'à l'âge de 16 ans, elle s'est rebellée un peu. Elle a parlé avec un garçon au téléphone, parce que ça ne se fait pas, apparemment. Hein? Elle a parlé avec un garçon par téléphone. Elle n'a même pas vu, mais elle était très amoureuse d'un garçon qui n'était pas témoin. Et elle était à l'internat et elle est très intelligente. Et à l'internat, elle avait une carte téléphonique qu'elle pouvait utiliser pour téléphoner aux parents. Ou c'était un chiffre, un truc où, vous voyez, elle pouvait téléphoner gratuitement, qu'elle utilisait pour téléphoner à ce garçon. Mais la facture téléphonique était très, très longue. Et sa mère la voit. Et sa mère dit, c'est pas bon. Donc elle demande au frère de téléphoner au numéro. Le frère a un an de plus, il avait 17 ans à l'époque. De téléphoner au garçon, de trouver qui c'est et de la rapporter au père, qui la met aux genoux devant toute la famille. Voyez, elle n'avait, c'était pas, je savais parce que je la connais, c'était pas un problème de sous parce qu'elle avait épargné pour payer les factures. Ça, c'était pas le souci, hein. Et c'était, elle s'est sentie trahie par sa mère. Donc elle m'a dit un jour, on parlait des témoins, elle dit, si je suis pas témoin, Jéhovah, je vais pas aimer ma mère. Donc je dis, comment ça? Je suis témoin, donc j'aime ma mère. J'ai pas compris. Elle dit, mais c'est une code. C'est la code. On n'a pas le droit de ne pas aimer sa mère. Parce qu'elle a été excommuniquée, mais aujourd'hui, elle est revenue à ça. Donc, on a tapoté pour tout ça. On a même tapoté avec Jéhovah même. Elle est venue dans la salle, pourquoi pas, hein, tapoter sur Jéhovah. Oh, elle est chouette, elle est gentille, elle est blablabla, elle est peut-être autre chose aussi. Bon. Donc, c'était très, très intéressant. Donc, pour résumer ce cas, parce que c'est un cas très particulier avec tel, je pense que je m'aurais perdue dans toute cette histoire de vouloir vraiment l'aider avec tout ce qu'elle avait. Le EFT de base, c'est sûr que c'était fantastique, mais ça l'avait donné de la créativité à elle. Ça lui a mis à distance. Elle pouvait regarder la famille. Et aujourd'hui, quand elle se voit, elle voit toute la famille, elle va se prendre comme avant, mais elle dit, mais en fait, je suis plus haut qu'eux. Moi, je me sens ma place, elle est là. C'est bien et je suis contente avec ça, donc on travaille avec ça. Et la dernière fois que je l'avais vue, avant de venir, elle rentre dans le cabinet, elle dit, elle me tutoie toujours. Tu sais quoi? J'ai compris le truc. Qu'est-ce que tu as compris? C'est pas Jéhovah le problème. Ah bon? Non, c'est pas maman le problème. C'est moi. C'est moi. Et c'était vraiment magique parce que ça venait vraiment d'elle. Et je veux aussi répéter des choses qu'on a déjà dit ce week-end. Comme thérapeute, notre rôle, c'est vraiment d'être vigilante. Vraiment d'écouter leurs mots, de leur redonner leurs mots et jamais interpréter. Parce que ça, c'est la plus grande erreur du thérapeute. Hein. Parce que c'est là où des choses magiques peuvent se... On peut, parfois, n'est-ce pas, on peut être là et dire, mais on peut sentir. Et ce n'est pas parce qu'on sent, mais si on ressent quelque chose, et ça m'arrive de ressentir quelque chose que quelqu'un ne dise pas, c'est de la redonner. Je ressens un peu de colère. Ça vous parle? Et, ah oui, parfois ça peut être non, 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 je ne ressens pas la colère. Donc, on a tout ça pour travailler. Ça nous donne aussi des informations. Donc, les peluches, c'était ma façon. Quand j'ai juste appris avec ces premiers deux peluches, à chaque fois que j'allais faire les retraites, je prenais encore deux, encore trois, encore. Et maintenant, j'ai 36. Et c'est fantastique parce que vraiment l'information, elle est là et elle est là rapidement. Et en tapotant dessus, on arrive vraiment à nettoyer, à calmer. Et aussi, ça donne une créativité et c'est fabuleux. Comme je suis aussi assez artiste, ça m'aide beaucoup dans le travail que je fais avec les autres. Et juste une petite parenthèse, peut-être un peu pour Fiona. cette patiente-là, elle vient parfois et elle va me dire, au lieu de me dire comment elle va, elle va dire, je vais la dessiner pour toi. Donc, elle prend une feuille et elle dessine. Ce n'est pas les dessins aussi simples qu'on avait vu là. Elle met, elle, une forme d'elle, la première fois, une forme d'elle, avec, parce que, ah oui, pardon, avant, quand on a travaillé tout ça, qu'est-ce qu'il a perdu? Elle a là, en fait, on le sent qu'elle a un problème au nez, respiratoire. Mais on n'avait pas le temps de travailler tout ça, parce qu'on travaille tout ce qu'elle fait. Mais là, elle dit, je suis toujours prise là. Et c'est la glaire vert. Glaire vert. Gunk. Et c'est vert. Donc, on travaille sur le... C'est vert. Et pendant que je tapote avec elle pour ça, elle est prise par le... Elle ne peut pas. Elle est asphyxiée elle-même. Elle a saigné du nez. Il y a tous les symptômes qui viennent. Et elle me dessine, elle. Et sur cette page qu'elle dessine, il y a la silhouette. Et dedans, moi, ce que je vois, elle dessine du ciment. Du ciment, c'est gris. Au-dessus, c'est du sable. Après, elle a de l'eau. Après, elle a encore du ciment. Et ensuite, elle a des cheminées de différentes tailles qui font pfff. Et après, il y a le feu. Et ça brûle. Donc, parce qu'elle m'amène ça, et je n'ai pas le picture tapping, on tapette, on regarde. Je fais protocole EFT, classique, je dis. Je regarde. Qu'est-ce que tu... Je la demande, qu'est-ce que tu vois là? Bon, je vois des cheminées. Hein. Ça m'étouffe. Donc, on travaille avec tout ce que ça lui fait. Et on baisse. Et elle me refait un autre dessin. En fait, elle, peut-être, c'est elle qui a commencé le picture tapping toute seule. C'est peut-être dans une vie précédente. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec elle. Donc, c'est une petite façon de vous présenter la façon que je travaille en constellation familiale, héritage émotionnel, parce que je trouve ça très, très fort. Et en fait, je ne vous ai pas parlé de héritage émotionnel, mais ça doit être pour une autre fois, parce que c'est quelque chose que j'ai capté avec la France. Combien de temps j'ai? Elle n'est pas là. 7 minutes, d'accord. Je vais juste vous dire, pour résumer, donc, par rapport à l'héritage émotionnel. En vivant en Corrèze, c'était comme, je savais que je devrais venir vivre en France, je savais. C'était impératif de venir. Mais avec ça, dans le village où on a acheté la maison, avec les dénonciations, empoisonnement de plantes, après, c'était tout mon jardin était empoisonné, chat empoisonné, le vétérinaire a dit, désolé, mais ça, c'est grave et pas quelque chose de bon. Plein de choses qui sont arrivées. Je ne sais pas, non, c'est pas possible. Je voulais vraiment, je dis, c'est pas possible. Thank you. Et ce que j'ai vu, c'était vraiment ce que j'ai ressenti, c'est la souffrance en France. Vous savez, j'étais élevée, moi, en Angleterre. J'avais vraiment l'impression que toutes les Français étaient des résistantes dans la guerre. Hein? Nous, on a eu Allo Allo, hein? un truc feuilleton en Angleterre qui s'appelait Allo Allo. Et tous les Français étaient des bons combattants et résistants. Donc, je croyais vraiment que tous les Français étaient résistants. Et arrivant dans ce village, c'était encore là. Un avait dénoncé quelqu'un d'autre dans le village. Hein. Un qui avait gardé des Juifs dans le grenier et un autre voisin qui avait dénoncé le voisin parce qu'il avait des Juifs dans le grenier. Et aussi dans ce village, parce qu'on est près de Tulle, il y a le Panzer Division de la guerre qui a traversé la Corrèze, quand même. Hein. Et cette énergie, je trouve qu'elle est vraiment là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent dans la terre corrézienne et cette peur d'invasion. Je suis étrangère, je peux comprendre que peut-être je suis déclencheur un peu de certaines choses. Et ça, je trouve qu'il est vraiment dans... Mais il y a une autre chose, c'est héritage quand même. j'ai pas compris l'héritage. En Angleterre, alors peut-être je vais demander aussi à Fiona si. Hein, dans l'héritage en Angleterre, c'est différent qu'ici. En Angleterre, moi, quand j'étais petite, mon père était toujours en train de nous dire à moi et ma sœur, quand on a fait des bêtises, « Toi, demain, je vais au notaire. » »« Ah oui, toi aussi, c'est génial, oui. »« Toi, demain, je vais chez le notaire, je te déshérite. » Parce qu'on peut le faire très facilement. Si on veut laisser tout notre argent à la SPA, c'est possible. Moi, j'attends absolument rien. Mais j'ai compris par des personnes qui sont venues me voir que c'est très différent de cette chose d'héritage. Et au début, je n'ai pas compris. Quelqu'un qui est venu me voir, qui avait par exemple beaucoup de stress parce qu'elle venait d'hériter 5 maisons. Vous vous plaignez parce que vous avez hérité 5 maisons. Hein? Quand on peut, il y a des gens qui n'ont même pas une maison. Et vous vous plaignez. Mais j'ai compris après qu'en fait, c'était très, très lourd. C'est très, très lourd. Qui a donné cette maison au départ, hein? Donc, au fur et à mesure, il y a toutes les générations qui ont une maison. Donc on, hein? Et je dois garder tout ça comme une loyauté. Et je n'ai pas le droit de la vendre. Et je n'ai pas le droit de... Et c'est... Oh! Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée. Et j'ai pris une bonne leçon de comprendre dans toutes les êtres qui viennent me voir comment ça peut peser tout cet héritage. Et je dis, si on recule, pourquoi l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère voulait vous donner cette maison? Peut-être parce qu'auparavant, c'est ça qui vient parfois, il n'y avait pas d'argent. Et c'est une façon de pouvoir enrichir la prochaine génération. Le problème, c'est que quand ça devient quelque chose qui est pesé lourd, parce que peut-être une génération dit « t'as pas le droit hein? ». Donc, je trouve ça très intéressant, parce que c'est culturellement vraiment une grande différence. En Angleterre, on n'a pas la même façon dans les familles. Hein? On n'est pas comme les familles ici. Même les enfants, je me rends compte que beaucoup de... Je sais pas, peut-être beaucoup parmi vous ont peut-être passé plus de temps avec vos grands-parents qu'avec vos parents petits parce qu'ils travaillaient. En tout cas, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup au cabinet. Et les grands-parents étaient très chouettes, hein, il n'y a pas de problème. Mais parfois, c'est où de se connecter, où est la loyauté. Et ce travail avec les peluches, ça me permet vraiment d'aller au cœur et de pouvoir aider à reconnecter dans le bon sens et de... Voilà. Donc, je pense que je viens à peu près à la fin de tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce n'était pas trop dans tous les sens. Oui, parce que j'avais un autre cas, mais je n'ai pas le temps. Un truc assez... J'ai pas le temps, mais très vite. Juste une petite anecdote, parce qu'elle ne m'arrête pas tout de suite. Petite anecdote d'une femme avec qui j'ai travaillé, et ça allait vraiment, vraiment vite, et c'était beaucoup mieux. Mais elle vient, et elle me dit, mon mari me dit que je ne lâche pas vraiment sexuellement à cause de ma mère. Donc je dis, elle allait vraiment beaucoup mieux. Elle était venue pour la confiance en soi. Donc ça montre déjà la confiance de pouvoir travailler ça. Et au fur et à mesure qu'on travaille autour de ce sujet, il apparaît que sa mère, c'était le plaisir, il est interdit. Ça, c'était son écriture sur son mur. En gros, le plaisir, c'est interdit. Qui a écrit ça? Elle m'a dit, c'est le pape. En fait, ce n'est pas le pape, c'est sa mère qui l'a dit que c'est le pape. Mais ce n'est pas vraiment le pape, c'est sa mère qui dit que c'est le pape. Donc, on travaille sur cette croyance. Mais sa mère a perdu sa maman quand elle était toute petite et encore une grande famille. C'est la fille aînée, un peu comme là, la fille aînée qui élève tous les enfants. Mais cette fille aînée, elle n'avait que 13 ans. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, qu'est-ce qu'elle va dire à cette petite de 3, 4, quand elle devient adolescente, sexuellement, « Moi, je n'ai pas le droit hein. !» Donc, il y avait tout ça qui est sorti. Moi, maintenant qu'elle avait 26 ou quelque, je ne sais pas, 29, quand elle devient adolescente l'autre, Moi, j'avais, elle est gentille, douce, elle a sacrifié sa vie pour les enfants. Elle s'est retournée vers la religion en catholique. Donc, elle ne sait pas vraiment comment éduquer un enfant par rapport à la sexualité. Donc, sa référence, c'est le pape. Donc, c'est plus facile de dire c'est le pape que c'est moi, parce que moi, je ne sais pas. Moi, on ne m'a pas éduquée, j'ai aucune idée, mais c'est le pape. Donc, on travaille avec ça. Donc, à la fin de ce travail, je lui dis, et si on teste ça? Donc, elle me regarde, comment on peut tester ce travail qu'on vient de faire? Parce qu'il faut toujours tester. Donc, je dis, vous êtes peut-être la meilleure de savoir comment tester ce qu'on vient de faire. Donc, je dis, projetez-vous un peu dans les jours qui vont venir avec votre ami, votre mari, dans l'intimité. Elle me regarde. Déjà, le pape ne va plus me regarder. Et ça, je trouvais tellement beau. Hein, c'était un très bon test. Et je ne l'ai pas revu depuis, mais ça aussi, elle a dit, partage, partage. Ouais. Donc, c'est vraiment passionnant le travail en EFT. Vous êtes passionnant et merci beaucoup.